Bonsoir à tous, merci d'être à l'écoute de Radio Courtoisie, de plus en plus nombreux. L'expression est un peu convenue, mais les faits sont là pourtant, et ils sont têtus, comme disait le sympathique Lénine. Les chiffres d'audience récemment publiés nous encouragent et nous font plaisir, admettons-le. Depuis octobre, j'ai le plaisir de vous proposer ce rendez-vous un peu atypique, en ce sens que je n'ai aucune contrainte de forme ni de fond. Croyez-moi, il est rare dans les médias d'avoir une telle liberté. J'en ai conscience et j'apprécie ma chance de venir ainsi vous convier à des rencontres excitantes et vous inviter à gravir avec moi quelques sommets.
Le Kilimandjaro, que les neiges revêtent d'un blanc manteau, est un volcan haut de 5893 mètres. On prétend que c'est la plus haute montagne de l'Afrique. Sur le flanc ouest, près du sommet, se trouve la carcasse congelée et desséchée d'un léopard. Personne n'a su expliquer ce que le léopard cherchait à cette altitude.
Cette phrase d'Ernest Hemingway figure en exergue de la nouvelle du même titre, « Les neiges du Kilimandjaro ». Elle m'a depuis toujours beaucoup inspiré. Que chercher le léopard à eau? Qu'allons-nous chercher nous-mêmes quand nous tentons d'aller un peu au-delà de ce qui est convenu, de ce qui est prévu pour nous? Quelles sont nos aspirations? Quels sommets voulons-nous gravir? C'est l'idée de cette émission. Depuis le début de la saison, nous avons parlé de chant, de société, de cinéma, de médias, de grands reportages, de terrorisme, d'humour, d'autres choses encore, avec Arnaud Clarsfeld, Éric Nolot, Brigitte Bardot, Jean-Marie Perrier, Georges Fenech, Amaury de Hautecloque, Fabien Lecoeuf, Basile Lecoq, Patrick Chauvel, bien d'autres invités. Mais deux domaines, au fond, ont vraiment ma préférence, la littérature et l'histoire. Presque tous les films documentaires que j'ai eu le bonheur de réaliser se référaient à l'un d'entre eux, voire aux deux. Je vous disais que je n'avais pas de modèle de forme pour notre rendez-vous d'aujourd'hui, la preuve, pas d'invité, c'est un choix. Pour essayer de vous faire vivre un des événements décisifs du XXe siècle français, nous sommes dans les premiers jours de mai 54, écoutez.
Les journées de Genève ont pris soudain une gravité nouvelle avec l'ouverture des négociations sur l'Indochine. On a vu pour la première fois siéger aux côtés de la Chine et de l'URSS les délégués du Cambodge, ceux du Laos et ceux du Vietnam. On a vu également apparaître pour la première fois les délégués du Viet Minh qui ont énoncé leur contre-proposition. Ces négociations s'ouvraient à l'heure même où les éditions spéciales annonçaient à la France la chute de Dien Bien Phu, tombée après 57 jours d'une bataille sans merci. À l'heure où les héroïques soldats du général de Castres, dont on voit ici l'image, cédaient sous le nombre après une défense qui pourra compter parmi les plus hauts faits militaires de toute l'histoire. Et la France se mettait en deuil. À l'étoile, les anciens combattants allaient s'incliner devant la tombe du soldat inconnu. Hommage à ceux qui, à Dien Bien Phu, venaient comme lui de se coucher sanglants, morts comme ceux de Verdun ou comme ceux de Cameroun, pour que flotte un drapeau.
Dien Bien Phu, donc, qui est tombé le 7 mai 54, très bientôt l'anniversaire. J'ai toujours rêvé de faire un film documentaire sur cette défaite si amère. L'occasion ne s'est pas présentée et ce genre de sujet n'a pas toujours plu aux chaînes. Mais j'ai eu la chance de fréquenter quelque temps Pierre Schoenderfer, caméraman à Dien Bien Phu et dont l'œuvre est hantée par l'Indochine, depuis la 317e section jusqu'à là-haut, un roi au-dessus des nuages. Un homme remarquable, droit, modeste malgré son talent, à qui j'aimerais rendre hommage ici. Son film Dien Bien Phu, son grand œuvre, sorti en 1992, raconte la bataille au plus près des combattants. Je le recommande vraiment. Et aujourd'hui, nous en écouterons plusieurs extraits qui donneront du corps, je crois, à ce récit. Je n'aime pas l'expression « devoir de mémoire », elle a un côté pompeux, fastidieux, un peu figé. L'histoire n'est pas une matière froide, elle est faite des passions, des ambitions, des sentiments nobles ou vils, mais profondément humains, qui animèrent ceux qui vécurent avant nous. Mais se souvenir, comprendre ce qui s'est passé, essayer de ressentir les émotions des protagonistes, marcher dans leurs pas, ça me semble indispensable. La guerre d'Algérie a touché tous les Français. Chaque famille ou presque avait un fils, un frère, un filleul mobilisé. Près d'un million et demi de jeunes gens y ont participé. C'est une guerre d'appelés du contingent. De plus, un million de Français vivaient de l'autre côté de la Méditerranée. On disait la France, de Dunkerque à Tamanrasset. Rien de tel en Indochine. Seuls combattirent des professionnels et bien peu de Français s'y étaient établis. Une guerre lointaine, à laquelle on était souvent très indifférents, si ce n'est hostile. Ainsi, les dockers insultaient-ils les blessés qu'on débarquait sur le port de Marseille. Il y a donc 72 ans, à 1200 km au nord de Saigon, la capitale de l'Indochine française, une petite vallée toute proche du Laos s'apprêtait à entrer dans l'histoire. Voici un extrait de l'ultime liaison radio entre le colonel puis général de Castres, qui commandait le camp retranché, et son supérieur, le général Conny, qui commande au Tonkin, le nord du pays. Le ton est assez froid, mais le contenu, au fond, est dramatique.
Bon entendu. Ce serait dit probablement. La nuit. Oui, mon général, c'est lui, bien sûr.
C'est ça, oui.
J'ai besoin de votre accord pour le faire.
D'accord, mon vieux.
Vous me donnez cet accord.
Je vous donne cet accord.
Il lui donne cet accord et nous verrons à la fin de l'émission, on écoutera la conversation en entier, comment les derniers jours, les dernières heures de Dien Bien Phu se sont passées. Je précise évidemment que cette histoire, je vous la présente du point de vue français. Ce n'est pas un parti pris politique, mais simplement lié au fait que nous avons beaucoup plus d'informations et de témoignages. De plus, sentimentalement, il me semble que c'est plus logique. Nous sommes français, comme les télédéfenseurs du camp. Enfin, pas tous d'ailleurs. Alors Alésia, Azincourt, Pavie, Québec, Waterloo, des batailles souvent glorieuses, mais hélas, des défaites marquantes dans notre histoire. Et Dien Bien Phu clôt cette bien triste liste. À plus de 10 km de chez nous, mal comprise, un peu oubliée, presque un peu honteuse, elle reste au fond assez méconnue. Même si, c'est vrai, les choses bougent depuis une quinzaine d'années. En tout cas, elle est pour moi depuis toujours un symbole exaltant de courage, de solidarité, de chevalerie même. À telle enseigne qu'en 2023, me trouvant à Saïgon pour des conférences, j'ai voulu aller voir de près le site de la bataille, je vous en reparlerai plus tard. Mais elle incarne aussi un sacrifice vain et en un sens absurde. Quand en 1942, les hommes de Koenig à Bir Hakeim résistèrent à l'Afrika Korps et aux Italiens dans la fournaise du désert libyen, ce ne fut pas en vain. Leur acharnement donna aux Britanniques le temps de se réorganiser et de préparer El Alamein sans avoir Rommel aux trousses. À Dien Bien Phu, tant d'héroïsme ne servit à rien. Par ailleurs, cette bataille n'a presque pas de précédent dans l'histoire des guerres coloniales. Je ne vois que la bataille d'Adwa en Éthiopie en 1896, où les troupes du Négus Ménélik laminèrent le corps expéditionnaire italien qui perdit 6000 hommes. Et dans une moindre mesure, Ishlandawana en 1879, où les Zoulous anéantirent une colonne britannique. Et encore, ces deux féroces batailles ne durèrent qu'une journée, rien de comparable au siège de Dien Bien Phu, 56 jours. Au strict sens militaire, elle ne scelle pas le sort de la guerre, puisque l'effectif engagé ne dépasse pas 15 000 hommes, soit moins de 10% du corps expéditionnaire français. D'ailleurs, il y aura encore 2 mois de combats assez intenses avant que Pierre Nès-France ne signe les accords de Genève le 22 juillet 1954. Mais elle a une valeur symbolique considérable. Les plus optimistes à l'état-major avaient espéré que ce camp retranché fixerait le corps de bataille vietnamien comme un pot de miel attire les abeilles et qu'on allait pouvoir enfin l'écraser dans une bataille rangée plutôt que de s'épuiser à attraper un ennemi insaisissable comme trop souvent depuis 1946. Oui, 8 ans déjà que Leclerc avait, au nom de la France, repris possession de l'Indochine saisie par les Japonais dans un déchaînement de violence inouïe. 8 ans que les nationalistes vietnamiens, enhardis par la défaite française en Europe en 40, luttaient pour l'indépendance. Alors assez d'escarmouches, assez d'embuscades, de coups de main, offrons-nous une vraie bataille, s'est-on dit à l'état-major français. Mais le siège, au contraire, allait montrer la fantastique organisation des troupes de Giap, leur vaillance, leur efficacité et surtout le volume stupéfiant de l'armement fourni par la Chine de Mao. Dans la cuvette de Dien Bien Phu, allaient disparaître quelques-uns des meilleurs de l'armée française, paras, légionnaires, et surtout le moral de tous reçut un coup terrible. Déjà impopulaire, la guerre en Chine ne pouvait plus être gagnée. Malgré l'aide américaine, qui couvrait 40%, voire plus des dépenses, la France avait dépensé en 53 330 milliards de francs dans ce conflit, 10% du budget de l'État et le double de l'aide reçue vers le plan Marshall. Alors, trouver une sortie honorable, c'était la consigne du président du conseil René Maillard au nouveau général en chef Henri Navarre qui remplace Salan. En clair, s'asseoir en position de force à table de négociation. Quelques années plus tôt, un autre commandant en chef, Delattre, avait écrit « En Indochine, la catastrophe peut survenir, mais il ne peut pas y avoir de miracle. » La catastrophe allait survenir à Dien Bien Phu.
Ils attendaient dans la cuvette, le tout dernier assaut des Viet. Dans la boue, ils creusaient leur trou. Viens, viens. Depuis des mois, dans la bataille, sous un orage gris de ferraille, il pensait qu'il tiendrait le coup. Avec moi, bien, yeah. Encore, encore. Le PC Gabriel est tombé ce matin Isabelle tient encore en soupape au corps à corps près du commandement des gosses de 18 ans pour la France tombe en chantant. On n'entend plus sur la cuvette que le cri de victoire des Viettes. Vous avez tenu jusqu'au bout. Bien, bien. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout de Dienne, bien fou. Mais nous, on reste fiers de vous. Pour Dienne, bien.
Dien Bien Phu, chanson de Jean Pax, Mes Frères. Pourquoi donc ce choix d'aller fortifier ce secteur et d'y installer une garnison considérable? Les buts de guerre sont assez imprécis. Il ne s'agit plus vraiment, comme en 1946, de maintenir un statut colonial d'avant-guerre. Est-ce une guerre contre le communisme, l'entreprise d'après Delattre la plus désintéressée pour la France depuis les croisades? Celui qu'on surnommait le roi Jean avait obtenu de bons résultats militaires en 1951, mais miné par la maladie, accablé par la mort au combat de son fils Bernard, il avait quitté son poste bien trop tôt. C'est pendant Dien Bien Phu que le président américain Eisenhower a formulé pour la première fois sa fameuse théorie des dominos communistes. Vous avez une rangée de dominos dressés. Si vous faites tomber le premier, le dernier sera renversé aussi. C'est ainsi. Pas faux, finalement, si on songe au destin du Cambodge et du Laos voisins après la victoire finale du Nord-Vietnam communiste. Alors que faire? Est-ce que nous voulions imposer ou accorder l'indépendance mais avec notre propre calendrier? Est-ce qu'on voulait installer une vraie fédération indochinoise? Est-ce qu'on voulait simplement créer une base qui couvrait tout le Nord-Ouest? Est-ce qu'on voulait couper l'approvisionnement en riz, indispensable à l'armée vietnamienne? Dien Bien Phu est une zone très fertile. Y a-t-il d'autres motifs plus obscurs? Après la Seconde Guerre mondiale, les chaînes d'approvisionnement en opium avaient été bouleversées par le conflit, puis par la guerre civile chinoise. La Régie de l'opium, un établissement absolument officiel créé par les Français, avait développé la production locale. Et le SDEC a organisé pendant des années l'opération X, trafic d'opium couvert par la hiérarchie, y compris Delattre, pour financer certaines opérations. Quant au Viet Minh, il n'était pas en reste, il couvrait à l'époque 3/4 de la production d'opium. Ou plus simplement, est-ce qu'on ne voulait pas reproduire en plus grand ce qui avait réussi plus au sud-est à Na San un an plus tôt? L'offensive Viet sur un village fortifié par les Français avait été un échec cuisant. Toujours est-il que la décision est prise, au départ sous l'impulsion du général Cogny, qui dirige les Français au Tonkin. Cogny et Navarre, le nouveau général en chef, s'entendent très très mal, ça sera un gros problème. Navarre est un homme assez glacial et Cogny, un fan de communication extraverti, on le surnomme Coco la sirène pour ses déplacements peu discrets. Tous deux ont combattu dans la Seconde Guerre mondiale, mais de la manière bien différente. Navarre, au grand jour, participant à la libération de la France à la campagne d'Allemagne à la tête d'un régiment blindé, alors que Cogny aura un sort plus sombre, plus cruel. Arrêté par la Gestapo, il sera déporté à Buchenwald, torturé, Mauthausen. Des problèmes physiques, il ne recouvrera jamais complètement l'usage de ses jambes, il portera une canne. Leurs graves désaccords vont peser sur la bataille, ils seront interrogés d'ailleurs par une commission d'enquête en 1955. Exemple, en pleine guerre, en pleine bataille, pardon, une lettre de reproche, Cogny informant qu'il ne souhaite plus continuer à servir sous les ordres. En pleine bataille, évidemment, après l'issue de la bataille, mais quand même. Ici, dira Cogny, on ne barre pas une direction, c'est une notion européenne, les Viettes passent partout. La stratégie de Hérisson n'a pas de sens, on est trop loin d'Hanoï, des aérodromes, pas de soutien aérien facile, pas d'intervention longue de la chasse. Que faire? Lui, Navarre, veut au contraire que ça soit un véritable hérisson. La France est engagée à défendre le Laos, c'est ce qui décide Navarre, donc, sans directive claire du gouvernement Laniel, à lancer l'opération Castor pour rendre de vitesse les divisions 316, la meilleure division vietnamienne, dont le service de renseignement annonce qu'elle a fait mouvement vers le Laos. Donc le 20 novembre 1953, après un ultime repérage aérien, la météo est jugée acceptable et le feu vert est donné. Que n'a-t-il plus ce jour-là, décrira plus tard Bijard, qui pourtant a forgé sa légende durant le siège. Plusieurs unités parachutistes sautent sur Dien Bien Phu, dont son régiment, le 6e bataillon de parachutistes coloniaux, pas moins de 2600 hommes.
Hé, ça tire en dessous!
T'inquiète, moins de 2 minutes. Fais d'accélérer, hein. Dès que la sonnerie cesse, tu arrêtes tout. Je veux pas avancer chez les Viettes, vu? Va, piston!
Les gars, sur la tête!
La porte.
Ils sont largués sur un bataillon Viet et mènent de durs combats toute la journée. Mais c'est un succès. Les Viet, ce n'est pas du mépris, on les appelait comme ça à l'époque, hein, ne le prenaient pas en mauvaise part, laissent en place quelques espions, mais ils quittent le secteur. Très vite, la garnison s'élève à 5000 hommes et une noriade d'appareils largue, puis dépose en 18 jours 1760 tonnes de matériel. Armement, munitions, antennes chirurgicales, cuisines, moustiquaires, bulldozers parachutés. La piste d'aviation est opérationnelle en 5 jours. À quoi ressemble au fond Dien Bien Phu ? On emploie le mot cuvette, alors on imagine un réduit, une sorte de fort apache. Non, c'est une vallée, 17 km de long, 5 à 7 de large, très verdoyante, traversée par la rivière Nan Yum, peuplée de quelques villages et dotée de petites collines qui formeront les points d'appui français. On leur donne d'ailleurs des noms de jeunes femmes françaises, pour les hommes un peu de France, si loin de chez nous. Gabrielle, Anne-Marie, Huguette, Claudine, Dominique, Béatrice, Eliane, Isabelle, qui contribueront à l'aspect théâtral et tragique des comptes rendus. Béatrice est submergée, Isabelle tient... Huguette tombe, autant de formules désespérantes qui serreront le cœur. Certains prétendent que ces prénoms étaient ceux des anciennes petites amies du colonel de Castres, invérifiable. J'ai eu la chance en 2023 de me rendre sur ce site, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le petit appareil qui m'amena d'un œil se posa sur la piste bâtie à l'emplacement même de celle du camp retranché, et en prenant pied sur le tarmac, je ne pus m'empêcher de lever les yeux et de tourner lentement sur moi-même, incrédule. Autour, des montagnes très boisées, de 500 jusqu'à 1500 mètres d'altitude, à environ 10 km de camp. Nul ne savait encore que ces hauteurs allaient se hérisser d'une formidable artillerie livrée par les Chinois au rythme démentiel de 2500 tonnes par mois tout au long de l'année précédente en 1953. Pas un instant, les Français n'ont cru possible de hisser ce matériel sur les sommets. Ce sera fait pourtant, à bord de camions russes Molotov sur les pistes, puis à dos d'homme sur un antique vélo Peugeot modifié pour porter 200 km de charge. Entreprise titanesque, réussie au prix d'efforts inouïs des soldats, les Bodoy, aidés par les travailleurs civiques, plus ou moins volontaires, réquisitionnés sans ménagement, ils seront 50 000. C'est par cet exploit logistique incroyable que l'armée populaire du Vietnam a construit son succès. Plus tard, c'est sur ce modèle qu'ils vont bâtir la piste Ho Chi Minh, célèbre piste de 2000 km de chemin passant par Laos et le Cambodge, pour ravitailler les miliciens au sud du Vietnam qui luttaient contre les Américains. Au fil des semaines, côté français, le chantier donne à la vallée un nouveau visage, beaucoup moins riant. Partout des barbelés, des galeries, des tranchées, des pièces d'artillerie. La presse invitée rencontre avec admiration des progrès. Les hommes politiques français se déplacent. Pleven lui-même, ministre de la Défense. C'est un piège gigantesque, écrit Le Monde. Rien ne pourra permettre aux assaillants de franchir l'espace. La France ne s'inquiète pas, si toutefois elle s'intéresse à ce qui va se passer. Le festival de Cannes, Roland-Garros vont bientôt commencer. Le premier match de foot retransmis en direct, la finale de la Coupe de France Nice-Marseille, excite les fans. Et pendant que, loin des yeux de l'Occident, comme aurait dit Malraux, nos soldats se préparent au combat, on écoute Charles Trenet.
Vous qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine, vous, dont je guette un regard. Pour quelle raison ce soir passez-vous sans me voir? Un mot, je vais le dire, je vous aime. C'est ridicule, c'est brême, c'est jeune et c'est terrible. Aussi, vous qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir. Les souvenirs sont là pour m'étouffer, de larmes, de fleurs, de baisers. Ah oui, je revois les beaux matins d'avril, nous vivions sous les toits, tout en haut de la ville. Vous qui passez sans me voir.
Aujourd'hui, nous évoquons la bataille de Dien Bien Phu. C'est bientôt son 72e anniversaire, la chute du camp retranché le 7 mai 54. Donc, nous disions que le camp s'organisait, mais qu'il y avait quand même des défauts structurels. Pas d'abri bétonné, ouverture dirigée face aux éventuels obus, les principaux PC et l'antenne chirurgicale regroupées en moins de 100 mètres. Il suffit de viser au milieu et on est sûr d'en toucher un, dira le caustique l'anglais, un des officiers para marquants de Dien Bien Phu. L'antenne chirurgicale peut accueillir 100 blessés. Et s'il y en a 300, demande le médecin commandant Grosvin qui prend son poste quelques jours à peine avant l'attaque. Pour commander, on a fait appel au colonel de Castres, un cavalier de concours hippique assez brillant. Certains le jugent mondain, mais il a quand même été décoré à plusieurs reprises en 1940. Sous ses ordres, quand commencera la bataille, s'alignent 1500 soldats métropolitains, notamment des parachutistes, 3000 légionnaires, dont beaucoup d'Allemands, qui portent, destin ironique, l'uniforme de l'ennemi d'il y a moins de 10 ans, à peu près autant de tirailleurs algériens ou marocains et environ 3500 autochtones, des vietnamiens ou des thaïs, donc à peu près 11 000 hommes environ. Un petit mot sur le dispositif un peu technique pour comprendre la géographie des lieux. Honore Gabriel, qui commande l'accès à la piste d'aviation, défendue par les tirailleurs algériens. Anne-Marie, défendue par les Thaïs. Honorès Béatrice et un bataillon de la légendaire demi-brigade de Légion étrangère. Au centre, Claudine, défendue par l'autre bataillon. Eliane, avec les tirailleurs marocains. Dominique et Huguette, avec les légionnaires. En réserve, en cas de coup dur ou pour monter des contre-attaques, deux bataillons d'élite, le 8e choc et le 1er bataillon étranger de parachutistes. Isolé du reste de la garnison, le point d'appui Isabelle, 6 km au sud du PC, nous en reparlerons longuement. Dien Bien Phu a aussi sa propre aviation, une dizaine de chasseurs et d'appareils d'observation. De l'artillerie un peu partout, notamment 4 énormes pièces de 155 qui projettent des obus de 40 kg à 15 km pour neutraliser la très éventuelle artillerie ennemie. Le lieutenant-colonel Pirotte, qui commande l'artillerie de la garnison, explique d'ailleurs à plusieurs reprises sa certitude absolue sur ce point. Il dispose aussi de nombreux canons de 105, de mortiers. Il y a même une dizaine de chars légers Safi, dont un peloton à Isabelle, commandé par le lieutenant Préau. Ces notes, prises sur le vif, forment un témoignage exceptionnel. J'aurai la chance d'y avoir recours à plusieurs reprises dans ce récit. Tout est prêt, donc, côté français. Enfin, à première vue. Et en face. Depuis les hauteurs, les Vietnamiens observent tout cela avec intérêt. De son côté, Giap, le général en chef, est bien décidé à livrer bataille à Dien Bien Phu et fait converger de nombreuses troupes qui s'installent hors de vue, couvertes par la végétation. Ils seront 48 000 au 13 mars. L'aviation de reconnaissance française rend bien compte de l'avancée en file interminable des troupes du Viet Minh. Quelques bombardements interviennent, mais jamais. La circulation ne s'arrête plus de quelques heures. Nous avons échoué, reconnaîtra le général De Chaux, chef de l'aviation. Les Viet remettent en état 200 km de route. Ils en créent 100. Et dans la montagne, entre précipices et parois, au prix sans doute de morts jamais annoncées, ce qu'ils réussissent est à peine croyable. Acheminer les pièces d'artillerie dans ces conditions-là, force l'admiration. Pendant que la confiance aveugle règne dans la plaine, dans la montagne donc, le piège se prépare. Le décor de la tragédie s'est mis en place. Bien des années plus tard, dans un français parfait, le général Giap analyse les raisons de sa victoire.
La victoire de Dien Bien Phu, d'après moi, d'après mon opinion personnelle, c'était dû à l'habitude millénaire des Vietnamiens de creuser la terre. Vous avez vu nos digues, les digues du fleuve Rouge. Nous sommes un peuple de terrassiers depuis plusieurs siècles. Et nous avons construit seulement, nous avons creusé la terre, bâti ces digues à main d'homme pour maîtriser le fleuve Rouge et le fleuve du Nord. On travaille de termite. Et à Dien Bien Phu, on a creusé la terre, creusé les flancs des montagnes et ensuite creusé ce réseau, vous savez, de tranchées là. Des centaines et des centaines de kilomètres de tranchées reliées les unes aux autres et avec des souterrains pour chaque section, pour chaque compagnie et pour pouvoir vivre là des mois et des mois.
C'était le général Giap lui-même qui raconte la bataille de son côté des années plus tard. Très vite, toutes les sorties des Français se heurtent à la présence de l'ennemi. Parfois de simples escarmouches, mais le 12 décembre par exemple, à 15 km au nord, les légionnaires, partis recueillir des partisans de Thaï, tombent sur des éléments de la division 316 et frisent le massacre. L'aviation les sauve. Chaque jour, l'étau se resserre et toute sortie est si coûteuse que Castres les limite au strict minimum. Donc, clairement, dès le début, un objectif de Dien Bien Phu, mener des offensives, rayonner, frapper, revenir à la base est d'ores et déjà caduque. Bijard dira plus tard, Ces directives jugées réalisables derrière un bureau ne tenaient aucun compte du terrain, des capacités ennemies, du travail défensif à mener. Une vue de l'esprit catastrophique. Navarre, le 1er janvier, écrit d'ailleurs « Il y a 2 semaines, j'estimais nos chances de succès à 100%. Mais si les renseignements sur les moyens dont dispose l'adversaire sont exacts, je ne puis garantir notre réussite avec la même certitude. » Navarre a choisi le lieu de la bataille, mais Diap a choisi le moment. Le mot d'ordre initial est très clair. Attaque claire, victoire rapide. Il fixe une date, le 25 janvier. Les écoutes, l'interrogatoire de prisonniers informe le commandement français. Mais finalement, Diap renonce. Pour quelle raison? Peut-être pas encore assez d'obus. Ou le début de la conférence de Berlin, où Anglais, Russes, Américains et Français évoquent le statut de l'Allemagne. Il tente ensuite des diversions sur d'autres théâtres d'opération. Il menace Luang Prabang au Laos pour que Dien Bien Phu se dégarnisse. En vain. C'est donc un peu la drôle de guerre pendant un certain temps. Enfin, malgré tout, la garnison perd 150 hommes et 3 fois plus de blessés dans ces quelques mois d'escarmouche. Mais quand est annoncé à Berlin qu'une conférence va s'ouvrir fin avril pour traiter de la Corée, où la guerre s'est achevée un peu plus tôt, et de l'Indochine, Giap est décidé à attaquer. Il va même jusqu'à faire placarder des affichettes dans les villages pour inciter les paysans à se mettre à l'abri. Il a 48 000 hommes sous ses ordres, rapport donc 1 à 4 par rapport aux Français. Il a modifié totalement son mot d'ordre. Désormais, c'est attaque sûre, progression sûre. La garnison semble prête, malgré un sous-effectif dans certains bataillons, notamment ceux de la Légion étrangère, la 13e des BLE. Le 11 et 12 mars, premier tir viète sur le terrain d'aviation, 2 appareils détruits. Selon la légende, dans son PC, Ho Chi Minh retire son casque colonial, célèbre, le retourne et enfonce son poing et dit « Les Français sont là ». Puis, lissant le rebord avec son pouce, « Et nous sommes là ». Castres annonce « Messieurs, c'est pour demain ». Peut-être alors, dans les tranchées et les baraques, monta aux lèvres de certains combattants la célèbre prière du para de l'aspirant Zirneld, le premier officier parachutiste français tué au combat en 1942.
Mes enfants, ceux qui le souhaitent, approchez-vous, nous allons dire une prière. Notre prière. Donne-moi, Seigneur, ce qui te reste. Donne-moi ce dont les autres ne veulent pas. Donne-moi l'insécurité. Donne-moi la tourmente et la bagarre, que je sois sûr de les avoir toujours. Car je n'aurai pas toujours le courage de te le demander.
À 17h10, le 13 mars, l'enfer se déchaîne sur les défenseurs de Béatrice. Obus de tout calibre, une cadence démentielle pendant 1h30. Les abris volent en éclats, des dizaines d'hommes tombent. Et avant même que l'assaut d'infanterie ne débute, la malchance s'en mêle. À 18h30, 2 coups directs tuent le chef de bataillon, ses adjoints, et détruisent toutes les radios du PC. 1 heure plus tard, un obus explose dans l'abri du lieutenant-colonel Gauchy qui commande tout le secteur centre du camp retranché. Privé de ses chefs, la résistance des légionnaires manque de coordination. La marée humaine monte à l'assaut à 10 contre 1 environ, et malgré des pertes insensées, on parle de 1500 morts côté vietnamien, Béatrice tombe après minuit à l'issue du combat au corps à corps. Côté français, 100 morts, 200 prisonniers et 100 de rescapés qui rejoignent tant bien que mal la position centrale. Au petit jour, les autres défenseurs de Dien Bien Phu découvrent le spectacle de Béatrice ravagé par les obus comme ces paysages de la Première Guerre mondiale. Quelqu'un dira d'ailleurs plus tard, Dien Bien Phu, c'était Verdun, sans la voie sacrée. À 7 km au sud de Béatrice, sur Isabelle, on n'a pas ce spectacle de désolation à portée de jumelles. Et même si on est abasourdi de ce qu'on apprend à la radio, le lieutenant Préau note « Le moral demeure excellent ». Ils ont pris un point d'appui, mais à quel prix? Ils ne pourront pas recommencer tous les soirs. Chacun devine maintenant que Gabriel, au nord du dispositif qui commande l'accès à la piste d'aviation, est la prochaine cible. L'attaque aura sans doute lieu à la tombée du jour pour éviter l'intervention aérienne. Toute la journée, on s'efforce de renforcer les abris qui ont montré tragiquement leur vulnérabilité sur Béatrice. Gabriel, qu'on surnomme le torpilleur à cause de sa forme et de son emplacement au cœur même de la rizière, est la position la plus puissante du camp retranché, la confiance demeure de mise. 18h, le déluge de feu recommence. Il va durer jusqu'à 2h du matin, en provenant cette fois non seulement du nord mais de l'est. Malgré tout, les tentatives d'infiltration sont repoussées pendant des heures. Puis, c'est l'assaut sur toutes les positions défendues par les tirailleurs. La résistance sera plus longue que sur Béatrice, mieux soutenue par l'artillerie qui pilonne les vagues d'assaut, mais le résultat est le même. Au matin, c'est terminé. 120 morts, 200 blessés prisonniers, tout comme 100 d'hommes valides, et à peine 150 combattants qui ont pu s'exfiltrer.
Sur ordre, les derniers défenseurs de Gabriel abandonnent la position.
Herrgott, sacrement, verdammt, nochmal, Gabriel est foutu!
Quel gâchis. Avec un bataillon, on pouvait sauver Gabriel. J'étais à 50 mètres quand les tirailleurs ont décroché. Qui leur a donné cet ordre imbécile? Et vous, pourquoi étiez-vous pas là? 30 types, j'ai perdu 30 bons légionnaires pour rien. Je vais te dire, mon vieux, c'est aujourd'hui qu'on a perdu la bataille de Dien Bien Phu, ce matin. Et si on continue nos conneries, la chute, elle va venir très vite.
Un des extraits du film de Pierre Schoendoerffer sur Dien Bien Phu, très beau film que je vous recommande, puisqu'aujourd'hui, dans Les Neiges du Kilimandjaro, j'essaie de vous évoquer cette bataille, de vous la raconter à ma manière. C'était en effet, et ça sera plutôt dans quelques jours, le 7 mai, l'anniversaire de la chute du camp retranché en 1954. Donc, pendant que Gabriel, comme vous l'avez dit à l'instant, le film de Schoendoerffer, pendant que Gabriel est submergé, sur Isabelle, on n'est pas complètement tranquille non plus. Reprenons les notes du lieutenant Préaux. Personne ne dort. Tout le peloton est dans les chars, puis brusquement, ça tombe dru. Artillerie, FM. Le colonel m'envoie prendre une position en soutien d'une section de légionnaires à 500 mètres. Nous mettons une demi-heure en salement entre les obstacles. Je suis obligé de guider le pilote avec une lampe électrique en sortant de la tourelle. Plus un poil de sec. Vers 6 heures, tout se calme. Donc, 2 jours de combat seulement et 2 points d'appui aux mains de l'ennemi. Les appareils détruits au sol, la piste d'aviation impraticable, le bilan est catastrophique. Certes, les renseignements avaient signalé l'arrivée de l'artillerie Viet sur les collines, mais ce qui a stupéfié les défenseurs, c'est la quantité de munitions dont dispose Giap, la cadence, la durée du pilonnage, la précision des tirs sur des cibles visiblement repérées depuis les hauteurs. Et arrive un des points polémiques de la bataille. Pourquoi pas de contre-attaque efficace pour reprendre les points d'appui, surtout Gabriel? C'est un des reproches majeurs faits au colonel, pas encore général, de Castres. En réalité, si. Il y a eu une tentative, mais un peu timide. Elle fut assignée au para du 5e bataillon vietnamien qui avait sauté l'après-midi même sur Dien Bien Phu et qui ont appris à 4 heures qu'ils devaient reprendre cette position sur un terrain totalement inconnu après avoir supporté un tir d'artillerie en terrain découvert pendant plusieurs heures où ils creusaient leurs abris avec leurs ongles, comme dira le chef, le commandant Botella. Le colonel de Castres lui dira « Ils ne sont pas allés à la contre-attaque de bon cœur. Les 2 bataillons de réserve prévus pour cette occasion n'ont pas été engagés, ou à peine. » Leur chef, le colonel Langlais, préférant les préserver dans le carré central en protection du PC et des civils évacués du village de Lai Chau. Bijard dira « Cette contre-attaque n'en était une que de nom. En se heurtant à un très fort bouchon, elle n'a même pas atteint les pentes de Gabriel, ne put que recueillir les survivants. De plus, une erreur de communication gâcha encore l'opération. » Pour Béatrice, c'est la trêve proposée par Giap pour récupérer les légionnaires blessés de 8h à midi qui brise dans l'œuf l'idée de contre-attaque. De plus, maintenant, il pleut sur Dien Bien Phu. Et l'appui aérien, seule nette supériorité française, ne peut pas être fourni.
De Dien Bien Phu, la cuvette encerclée du pays Thaï, viennent d'arriver ces images, prises à quelques heures de l'assaut général du Viet Minh par 2 reporters qui devaient être blessés au cours de l'engagement. Il s'agit là d'un des raids les plus violents lancés du camp retranché pour desserrer la pression Viet Minh. Progression difficile sur un terrain abrupt et à chaque pas suspendu par des éléments Viet perchés dans les arbres ou cachés dans les trous. Comme on le sait, l'ennemi, après avoir longtemps hésité, s'est décidé à tenter l'assaut du bastion avancé, installé au milieu du pays qu'il contrôle comme une menace permanente. Le général Giap y a engagé 40 000 hommes et toute son artillerie afin de remporter un succès important avant l'ouverture de la conférence de Genève. À Dien Bien Phu, c'est la plus violente bataille de la guerre d'Indochine qui est commencée.
Les actualités de l'époque pour rendre compte de Dien Bien Phu avec ses voix, qu'on peut juger maintenant un petit peu ridicules, c'est vrai, qui enlèvent, je trouve, de la noblesse et de la réalité à l'événement. Comment faire face à cet incroyable début de siège, donc? Les conséquences sont de tous ordres. Bien sûr, les pertes, on l'a vu, 700 hommes hors de combat aux prisonniers. Statistique, stratégique, la perte de 2 points d'appui déjà vitaux. Logistique, destruction de l'aviation du camp, vulnérabilité extrême de la piste qu'on ne pourra étudier qu'à peine et plus pour très longtemps. Les blessés ne seront donc plus évacués. Seulement 300 en 15 jours auront cette chance. Le ravitaillement et les renforts n'arriveront donc désormais que par parachute. Et surtout, surtout, on a consommé en 2 jours les 2 tiers des obus disponibles. Enfin, conséquences psychologiques. Les troupes fragiles, pour certaines, sont stupéfaites et paniquées, notamment les Thaï qui occupent Anne-Marie. Combattants remarquables dans les escarmouches de jungle, mais inadaptés totalement à ce genre de situation. Castres avait d'ailleurs toujours eu des doutes à ce sujet, mais le général Conny s'était refusé à les remplacer par les troupes européennes. Dès le lendemain de la chute de Gabriel, soumis à la propagande des haut-parleurs viettes, effrayés à l'idée de ce qui les attend, beaucoup se replient sans ordre. Anne-Marie est abandonnée. À l'état-major, ça ne va pas très fort non plus. Dans les couloirs du PC, erre le visage gris de peur, casqué jusqu'aux oreilles, des gens désemparés. Écrit ironiquement le lieutenant-colonel Langlais, qui sera avec Bijard un des personnages marquants de Dien Bien Phu. Le propre chef d'état-major de Castres, le lieutenant-colonel Keller, sombre dans l'abattement dépressif, il est évacué vers Hanoï. Enfin, Le lieutenant-colonel Pirotte, qui commande l'artillerie, s'effondre en découvrant sa terrible erreur de jugement sur les canons Viet et sur notre capacité à les neutraliser facilement, ce qu'il avait maintes fois affirmé. Il répète sans cesse que c'est foutu, ils sont responsables de tout, c'est devenu une loque, dit Castres. Et dans la nuit du 14, Pirotte se suicide en découpillant une grenade sur laquelle il se couche. Après ces deux jours de combats furieux, un calme relatif règne sur le camp. Côté vietnamien, ces succès ont eu un prix incroyablement élevé qu'on estime généralement à 3000 hommes hors de combat au minimum, soit, écoutez bien, plus que le nombre de soldats américains tombés à Omaha Beach le 6 juin 1944. Les statistiques sont froides, mais l'ordre de grandeur. Jap renonce pour l'instant aux assauts frontaux et choisit l'asphyxie progressive. Côté français, il faut se réorganiser. Priorité aux renforts qui seront largués dès le 16. Quant au matériel, il en faut 150 tonnes par jour. On n'arrivera jamais à ce total, d'autant moins que la superficie de largage se réduit. Un tiers des parachutages tombent chez l'ennemi. À défaut d'avoir réussi à reprendre les points d'appui, Castres veut montrer que l'initiative peut encore provenir de la garnison qui n'est pas condamnée à subir. Il faut d'abord maintenir ouvertes les routes entre les différents postes. À quoi ressemble ce genre d'opération, écoutant le lieutenant Préau qui commande le peloton de chars sur Isabelle. 20 mars. La 12e compagnie part en reconnaissance vers Ban Bong. Le peloton est en alerte, moteur chaud. Je suis la progression des légionnaires à la jumelle. Soudain, ils sont accrochés par FM et mortier. On y va, vent du bas. C'est un cirque. La radio ne marche pas. Le capitaine est introuvable. Le lieutenant Glamblaise est évacué vers l'arrière sous notre protection. Il y a des blessés à récupérer dans le village. Impossible pour les légionnaires. Deux chars neutralisent les armes automatiques. Le troisième rentre dans le village, récupère le blessé, le pose sur l'arrière du char qui repart en reculant. On recommence ce manège plusieurs fois. On récupère tous les tués et blessés. Puis, les légionnaires décrochent de notre protection, les chars sont criblés de balles et d'éclats, toutes les antennes sont cassées. Notons que le lieutenant Gambiez, dont le père est général, futur commandant en chef en Algérie, ne survivra pas. Plus important encore qu'assurer les liaisons, montrer qu'on peut reprendre l'offensive. Castres convoque Bijard, qui a été parachuté le 16 avec son 6e BPC, et lui demande de monter une opération. Il s'agit d'aller détruire les pièces de DCA qui sont dangereusement rapprochées à l'ouest du camp et qui peuvent rendre tout largage impossible. C'est le début de la légende Bijard, car il réussit à coordonner 4 bataillons d'infanterie, l'escadron de chars, l'artillerie et un important appui aérien. Dès 6 heures, en quittant Claudine, les troupes sont au contact des éléments ennemis et découvrent le réseau de tranchées qu'il a commencé à creuser. Il faut se frayer un chemin au poignard. La lutte est très chaude et il faut appeler le dernier peloton de chars venu d'Isabelle pour le coup de main décisif. Son chef écrit « Nous arrivons à vive allure, sur le flanc droit des Viet Minh totalement surpris de notre éruption. Nous sommes au contact de Bijard. Il faut matraquer les Viet à 50 mètres. » Puis rush des paras qui enlèvent position après position, puis retour à toute vitesse vers Isabelle, aucune munition, et la hantise de sauter sur une mine chinoise. Il ne sait pas encore que ce sera la dernière liaison physique entre Dien Bien Phu et Isabelle. Le groupement renverse donc l'adversaire qui laisse 350 morts sur le terrain contre seulement, si j'ose dire, une vingtaine de Français. Canons, FM, bazookas sont détruits ou saisis. Les canons de DCA sont pas tous détruits, mais l'opération est réussie, regonfle les morales des troupes. Bijard à la baraka, tout va mieux dès qu'il est là, se dit-on. Le moral remonte. À Saigon, les bookmakers voient la cote des Français remonter. Oui, oui, les bookmakers, il y avait vraiment des paris. Le Monde écrit « Les troupes gardent une forte valeur offensive ». Les parachutistes, l'anglais en tête, jouent désormais un rôle décisif. L'anglais dira même « Castres ne sert plus à rien, il se contente d'envoyer les messages à Hanoï ». Pendant 2 semaines, les accrochages se succèdent, on se bat partout en périphérie du camp. La nuit, les Vietnamiens s'efforcent de cerner hermétiquement la garnison avec un réseau de tranchées. Dans la journée, on les détruit avec des petits bulldozers. On se consacre aussi à s'enterrer, à renforcer les abris, à dissimuler autant que possible les pièces d'artillerie. Le 28 au matin, un Dakota se pose sur la piste et est abandonné, endommagé. C'est le dernier. Le soir, l'artillerie Viet Minh le détruit. C'est donc le dernier. À son bord, une convoyeuse de l'air, chargée de s'occuper des blessés pendant les transports aériens, Geneviève de Gallard, qui offre ses services au médecin commandant Grovin immédiatement, elle deviendra l'ange de Dien Bien Phu.
Et là, ça a été des journées terribles, avec des quantités de blessés, un sentiment de fin du monde la nuit, lors des bombardements. Les premiers jours, je parais au plus pressé, mais ensuite, quand on s'est organisé, le docteur Grovin m'a donné la responsabilité des 40 plus gros blessés, ceux qui étaient à l'antenne. Il y avait 40 lits pour les blessés et 15 lits dans la salle de réanimation, et c'était là un autre infirmier qui s'occupait de la salle de réanimation. Et là, je faisais ce que le docteur Grovin me demandait, les piqûres, les pansements et tous les soins. Et on avait des blessés de l'abdomen avec des anus artificiels. Il y avait aussi beaucoup d'amputés parce que les amputations étaient des opérations courtes et ça permettait de sauver plusieurs vies. Parfois, c'était le drame du docteur Grovin qui faisait le triage. Il fallait qu'il choisisse entre sauver un blessé ou en sauver 5 ou 6.
C'est l'occasion de dire quelques mots sur les hommes du service de santé, notamment leur chef, le médecin commandant Grosvin. Dans son livre, il raconte la bataille vue depuis l'antenne chirurgicale. C'est à la fois magnifique et tellement violent que j'ai renoncé à vous en citer des extraits. Les conditions dantesques, la boule jusqu'aux chevilles, les abris moites et puants, où s'entassent 3, 4, 5 fois plus de blessés qu'ils n'en peuvent contenir, et qui parfois s'écroulent en étouffant sur leur civière les grabataires. Deux chiffres. Le 17 mars, par exemple, Gauvin a procédé personnellement à 23 amputations, autant que durant toute l'année 1950. Et durant les 56 jours du siège, il a réalisé 1500 opérations, 25 par jour, 20 heures sur 24. Un des grands hommes de Dien Bien Phu, à coup sûr, un seigneur, dira Bijard. Si la bataille ne s'est pas achevée là, c'est que Jap, étonné par l'ampleur de son succès, n'a pas poussé aussi fort que prévu sur les PC centraux, dira l'anglais. L'objectif des Vietnamiens, cette fois, sont les points d'appui à l'est, Dominique et Eliane. S'ils tombent, le centre n'est plus qu'à 1 km et le périmètre si étroit ne permettra presque plus de parachutage. L'habituel matraquage d'artillerie est cette fois très bref, à peine une demi-heure. Le réseau de tranchées a rapproché les combattants qui sont presque au ras des positions françaises. Le parapluie de l'artillerie va tomber derrière eux. Sur Dominique 1, la plupart des tirailleurs, Thaï et Algériens, désertent et se réfugient sur les bords de la rivière Nam Nui. Au total, on pense qu'ils seront environ 1100 qui vivront terrés, se nourrissant de colis trouvés dans les largages, ne combattant plus. On les surnommera cruellement les rats de la Nam Nui. Seul combat une compagnie de barbachtus vietnamiens. Et à 21h50, le constat est cruel, Dominique 1 ne répond plus. Sur Dominique 5, Dominique 2, on assiste au même enchaînement. Assaut de très près, résistance limitée, des Thaï qui se rendent, s'enfuient vers le PC ou désertent. Si Dominique 3 tombe à son tour, Eliane sera prise à revers et le PC centraux à portée de main des Vietnamiens. C'est près de 4000 Bodoy qui montent à l'assaut. Et ce qui va se passer alors mérite de s'y attarder un peu. Pour défendre cette position, une compagnie du 12e régiment de tirailleurs algériens et une batterie de canons de 105 du 4e régiment d'artillerie commandée par le lieutenant Brimbrook. Moins de 200 hommes. Devant le déferlement qui va s'abattre sur eux, on lui offre de se replier en détruisant ses canons. Il refuse et décide de mettre ses pièces à l'horizontale. Schoenderfer montre cet épisode dans son Dien Bien Phu.
C'est de la folie. Les Viet vont tout emporter dans la foulée. Et mes canons, à vous.
Pas de discussion. Faites sauter vos pièces. Repli derrière la Nam Nui, c'est un ordre. N'encombrez plus le réseau. Terminé.
Les cons. Les cons. Quelle bande de cons. Ils pensent que c'est foutu. Faire sauter mes canons. Pour la première fois de ma vie de soldat, je refuse d'obéir à un ordre. C'est ma nuit ou jamais. Non, non, fiston. On va pas exécuter cet ordre con. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu devrais être avec Slimane dans les tranchées. Allez, file, on va avoir besoin de tout le monde. Et trouve-moi quelques-uns de tes pimes pour aider mes canonniers. Hé, hey, fiston, on va leur appliquer la grande loi universelle. La loi du vieil Isaac.
Cerveau, aux flèches. Gisement 1540. Débouché à zéro. Charge maximum. Fin volonté. Allez-y, les enfants.
Servis par les Africains, ces canons font un affreux carnage dans la marée humaine qui s'abat sur Dominique III et la foudroie presque à bout portant. Elle refuse, hésite, elle repart, elle s'empare presque de la position. Brimbrook, repliez-vous ! Lui suggère-t-on à nouveau. Pas question. Depuis sa position, une mitrailleuse de 12-7 tire 68 000 cartouches en quelques heures et Dominique III ne cède pas. Les artilleurs ont offert à la garnison un sursis de plusieurs semaines. Le PC fait savoir à Brimbrook qu'il est fait sur le champ chevalier de la Légion d'honneur. Plus à l'est, sur Eliane, la situation est variable. Eliane 1 tombe très vite, Eliane 4, tenue par Bijard, résiste en trop de mal. Les Vietnamiens mettent le paquet pour prendre Eliane 2, qui est dans l'axe du pont qui enjambe la rivière et conduit droit au PC. Cette géographie-là n'a pas changé. Je me suis placé sur ce pont en 2023 et en effet, j'ai aperçu directement la position du PC. Les tirailleurs marocains vont arriver les Bodoy sur ce qu'on appelle les Champs-Élysées, une grande ligne droite qui enlève vers minuit le bas de la colline. Des combats sanglants les opposent aux tirailleurs. Le sort de la bataille vacille longuement, mais à 8h31, Eliane 2 est restée aux mains des Français. Cette fois, on lance des contre-attaques. Dominique 2 et Eliane 1 sont reprises par les hommes de Bijard. Mais les combats très durs prélèvent leur lot de pertes et au soir, ordre est donné d'abandonner sans avoir même affronté un nouveau assaut. On se bat sur Eliane 2 nuit et jour, le 31 et le 1er, cette fois la garnison tient toujours en place. On se bat aussi à Huguette, on se bat sur Huguette 6, reprise, perdue, reprise, sans cesse jusqu'au 5 avril et finalement para, légionnaire et char ont le dernier mot. En vous lisant ça, je réalise que ces phrases ne rendent pas justice à la vérité. Prise, reprise, tombe, assaut, contre-attaque. Derrière ces mots, des hommes qui combattent, qui souffrent, qui tuent, qui meurent. Dans ma visite à Dien Bien Phu, j'ai beaucoup marché tout seul pour essayer de comprendre et de m'imprégner de l'atmosphère. Mais il ne reste presque plus rien de ce qui était le site. Dien Bien Phu, c'est une ville désormais. Et des deux roues frénétiques slalom sur la chaussée qui fuit la ligne de front. Partout, des petites boutiques de téléphonie mobile, des coiffeurs, des néons criards. Parfois quand même, entre deux échoppes, je déchiffre une stèle, je reconnais ces mots. Eliane, Béatrice. Sur une autre colline, serpente encore un boyau qui fut une tranchée française. Le regard plonge à l'intérieur, on imagine les hommes fourbus, courant pliés en deux pour échapper aux éclats. On relève la tête et on découvre une poissonnerie. C'est le grand écart. Il faut beaucoup d'imagination maintenant pour se projeter dans cette tourmente. Le PC de Castres, lui, a été conservé, sorte de hangar longiligne au toit arrondi, protégé par une sorte de serre. Autour, un marché, des jeunes en scooter, un buffle. L'accès est libre, mais j'étais seul, à m'enfoncer sous la terre, à cheminer dans ce couloir étroit, imaginant les réunions, l'affolement, les ordres, la radio, les cartes qu'on griffonne nerveusement, les mauvaises nouvelles qui s'enchaînent. Je suis resté quelques instants assis par terre dans cette pénombre, soudain attrapé par le passé, avant d'émerger par les marches mêmes que graviront au moment de la reddition Castres et ses officiers. Mais moi, aucun combattant ne m'attendait. Des enfants en t-shirt coca qui me montraient fièrement une sorte de bas-relief qui illustrait la scène. Un peu plus loin, je tombais par hasard sur un des chars chaffis des Français, maintenu en bon état, incroyablement, sous un haut au vent, vaguement surveillé par un soldat sans âge, coiffé du même casque que ses nés de 1954. Je me penche dans la tourelle, j'inspecte les chenilles, il me regarde avec indifférence. Mais revenons en 54. Au cœur de la bataille des Cinq-Collines, l'Anglais contacte Isabelle, voici les notes du lieutenant Préaux. Nous recevons l'ordre de foncer vers Dien Bien Phu avec une compagnie de légionnaires pour soutenir la contre-attaque. Ce n'est pas de la folie, c'est du suicide. Plus de 6 km avec des bouchons viettes partout. Moins d'un kilomètre après le départ, un feu d'enfer se déchaîne sur nous, venant du nord, de l'est, de l'ouest. Grosse casse et les légionnaires. Mon char est bazooké 3 fois, la tourelle est bloquée. Échange très vite à la radio entre le colonel Trancard et le PC qui finalement renonce à cette aventure. Récupération très difficile des blessés sous le feu d'artillerie qui cible les chars et retour à Isabelle après 3 heures d'accrochage. Harcèlement permanent, ensuite le 2, le 3, matraquage la nuit, récupération des parachutages. Nous détruisons un blocos viette, les tranchées se ramifient, s'approchent dangereusement. Le 4 avril, appui de tirailleurs algériens qui partent en reconnaissance, approchage incessant. Le maréchal des logis conciliaires prend une balle dans la tête à 1 mètre de moi. On l'opère en urgence, le peloton est sous le choc, je leur dis quelques mots, on l'enterre le lendemain. Le char Conti saute sur une mine, Ney est blessé. Tiens, Ney, nous reparlerons de lui plus tard. Liaison radio avec Dien Bien Phu, 2 officiers nous sont parachutés ce matin pour remplacer nos pertes. Tous 2 sont blessés gravement le jour même. Et ainsi de suite. Non, cet homme, ce lieutenant Préaux, ce n'est pas Fabrice Eldongo à Waterloo dans la chartreuse de Parme qui ne comprend rien à ce qui se passe, qui analyse ses sentiments. Il n'a pas le temps. Préaux et ses 11 000 frères d'âme, Préaux, pardon, agissent. Les émotions, les mots viendront plus tard. Pour Diap, cette bataille est un demi-succès. Certaines positions ont été prises, mais pas toutes. Les attaques massives, affreusement coûteuses, ont monté leurs limites. Enfin, la combativité des défenseurs a surpris les troupes vietnamiennes, dont certaines sont relevées, leur morale semblant atteint. Navarre, de son côté, souhaite qu'on entretienne la bataille, expression que je trouve assez malheureuse, comme on entretient un bûcher. On doit reprendre l'initiative, aux Français de creuser une tranchée entre Eliane 4 et Eliane 1. On s'y emploie pendant 10 jours, et ensuite, on donne l'assaut.
En avant ! Eliane !
Cette fois, la situation est inversée. C'est aux défenseurs vietnamiens de résister courageusement pendant 6 heures, mais Eliane 1 reste reprise et restera française jusqu'à la fin, ou presque. À Hanoï, c'est la crise ouverte entre Navarre et Cogny, le premier reprochant au second de passer son temps à se défausser de ses responsabilités dans le choix de livrer bataille à Dien Bien Phu. Lucien Baudard, Max Lowe, les célèbres journalistes, sont les témoins de cette querelle au sommet. La nuit 31, par exemple, Cogny est injoignable, et quand il arrive enfin, Navarre est fou furieux. Que faire de l'extérieur ? Bien sûr, continuer les largages encore et toujours malgré la DCA. Au total, 1400 Français, 900 légionnaires, 2000 Vietnamiens, 4300 hommes donc, seront parachutés sur ce camp. Les derniers, écoutez bien, la veille même de la chute, la veille. Mais la saison des pluies approche et gênera l'aviation et sera un calvaire pour les défenseurs qui pataugent dans la boue. L'état-major du corps expéditionnaire est en proie à la stupeur, puis à une sorte d'affolement, presque une panique devant l'énorme erreur de diagnostic posée quant à l'efficacité des Vietnamiens. Les hypothèses absurdes sont alors évoquées. Usage de protecteurs géants pour éblouir l'infanterie des artilleurs, pluie artificielle déclenchée sur les pistes pour gêner les camions, etc. Plus sérieusement, on envisage l'opération Vautour, bombardement massif par les B-29 américains venus des Philippines. Il en est tellement question, après le premier du général français Ilia Washington, qu'on y croit. Nixon, le vice-président, est favorable à l'idée. Eisenhower, lui, hésite et conditionne sa décision à un accord britannique qui sera refusé par Churchill et Hayden. Le Sénat s'y serait opposé car il ne faut pas provoquer la Chine. Mais les faucons de manière non officielle, propose même de donner aux Français deux bombes atomiques. Il n'y a pas de trace de cette offre inouïe, mais côté américain, un témoin raconte la réaction d'Eisenhower. Vous êtes dingue ? Utilisez cette chose horrible une deuxième fois en lisant contre les Asiatiques, mais vous êtes fou. Côté français, pas de trace non plus, mais les témoignages de Georges Bizou de Schumann qui attestent de la réalité de cette offre heureusement restée théorique. L'enfer nucléaire n'engloutira pas les assiégeants de Dien Bien Phu.
When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Aujourd'hui, nous évoquons ensemble la bataille de Dien Bien Phu. C'est en effet dans quelques jours, le 7 mai, le 72e anniversaire de la chute du camp retranché et presque, à deux mois après, la fin de la guerre d'Indochine. Donc, pas d'intervention américaine. Une solution est proposée, l'arrivée d'une colonne de secours pour prendre les assiégeants à revers. Du Laos, la colonne crève-cœur, ça ne s'invente pas, composé de maquisards laotiens et de troupes prélevées sur la garnison de Luang Prabang, doit se regrouper avec des compagnies tombées sur l'arrière du Viet Minh. On ne pense plus à une victoire, c'est exclu, mais peut-être peut-on exfiltrer toute partie des défenseurs grâce à une trouée dans l'encerclement. Mais le feu vert tarde à être lancé, la progression est très lente, on arrive à peine à 50 km d'objectif, au mieux. Le célèbre capitaine Sassi et ses partisans Mao, les seigneurs aux pieds nus comme on les appelle, ont maintenant comme seul objectif de recueillir les quelques isolés qui auraient réussi à percer, rien de plus. Les défenseurs de Dien Bien Phu sont définitivement seuls. Au 15 avril, combien sont-ils d'ailleurs? Selon l'état-major d'Hanoï, il y aurait 700 blessés à évacuer, on se demande comment, et 6000 combattants. Selon l'anglais, il ne serait arrêté que 3000, et la moitié de l'artillerie a disparu, détruite. On fait donc sauter maintenant sur Dien Bien Phu des gens qu'on n'a pas eu le temps de former, et dont le baptême du sceau se fait là, dans l'enfer du siège. On demande des volontaires, il s'en trouve 1800. Chauffeurs, cuisiniers, fantassins, secrétaires, pour venir mettre leur vie en jeu sans espoir de retour, pour ne pas laisser tomber leurs camarades. C'est pour moi un des moments les plus émouvants de cette tragédie. C'est irrationnel, c'est fou, mais c'est magnifique. Une chose est de faire son devoir, librement ou sous la contrainte, mais se porter volontaire pour aller plonger dans l'enfer simplement pour ne pas rester les bras croisés, ça n'a rien à voir. C'est de la grandeur, c'est de la noblesse à l'état pur. Seuls 700 seront largués, faute de moyens aériens.
Regarde, ceux-là, c'est tous les fonds de tiroir, les rapatriables. Et tous les convalescents des unes des paras qui sont déjà là-haut. Du pain pour les canards. Rien de plus juste, du pain pour les canards.
C'est tout ce qui vous reste comme réserve?
Oh non, on a encore 3 bataillons paras en ado. Finirons peut-être par les envoyer, au goutte à goutte. Trop tard, les cons.
Arrête.
T'es pas amené ici pour faire la critique du commandement, regarde. C'est tout ce que je te demande. Je vais te dire. Un soldat accepte de se faire tuer pour remplir sa mission. C'est dans son contrat. C'est notre solde. C'est notre honneur. Seulement, un soldat a horreur qu'on l'envoie à la mort pour rien. Par connerie, par incompétence, par veulerie. Ça nous dégoûte. Réaction de professionnel, on n'aime pas être gaspillé. Tu comprends ce que je veux dire? Regarde, tous ces gars-là vont être gaspillés. Du pain pour les canards. Et ils le savent tous. Tous. Et pourtant, ils sont tous volontaires pour aller se faire gaspiller une dernière fois. Ils se bousculent au portillon. Voilà ce que je voulais que tu vois. Dis-le.
Un nouvel extrait de Dien Bien Phu, le film de Pierre Schoendorfer, qui nous aide beaucoup à évoquer aujourd'hui cette bataille dont nous fêtons l'anniversaire. Enfin, fêtons. Nous commémorons l'anniversaire dans quelques jours, le 7 mai. Alors, pourquoi continuer à ce moment-là? Pour l'honneur, pour les plus romantiques, pour éviter un cessez-le-feu avant la conférence de Genève qui débute le 26 avril. Le 23 avril, le sinistre leitmotiv revient à la radio. Huguette 1 est tombé. Castres décide de la reprendre, envoie le deuxième BEP parachuté deux jours auparavant. C'est un échec sanglant. Un tiers de l'effectif tombe en vain. C'est la dernière offensive d'ampleur des Français. Jap aussi, c'est que la conférence de Genève a débuté. Il veut emporter la décision. 14 000 hommes frais sont arrivés. Il y a de nouveaux matériels, des orques de Staline fournis par les Chinois. Il va lancer l'assaut final partout. À l'est, sur Eliane 1, les paras ne sont pas vaincus. Ils sont morts. 20 survivants sur les 180 combattants parviennent à gagner Eliane 4, qui résiste toute la nuit et tient toujours au matin du 2. Dominique 3 est prise. À 8 heures, c'est le tour du Huguette 5. Partout, c'est la ruée. Sur chaque point d'appui, on se bat pour soi. Il n'y a aucune aide à attendre des autres positions. Même Isabelle est attaquée directement. Matraquage toute la nuit. Tranchée vite au ras de nos lignes. Il n'y a plus que deux chars. La pluie aidant, les tranchées s'éboulent. Notre point d'appui a été pris, puis dégagé à 6 heures. Isabelle 5 est évacuée, faute de troupes.
29 avril. Eliana est sur le point de tomber. Tous les survivants des compagnies de parachutistes de réserve sont jetés dans la bataille.
Cette scène peut sembler factice, elle ne l'est pas. Pierre Schoendorfer, alors caméraman, l'a vécu, entendu et a tenu à la placer dans son film. Les paras encerclés qu'on entend au loin chanter la Marseillaise dont l'écho parvient aux défenseurs de d'autres positions. Qui ne frissonne pas? La litanie des combats reprend sous l'éclairage des fusées, les vagues de soldats vêtus de noir, les rafales, les corps à corps sans fin. L'héroïsme est présent des deux côtés. Parfois, il n'y a que 4-5 hommes. Les officiers tombent les uns après les autres. Au matin du 2, 3 des 6 positions attaquées sont irrémédiablement perdues. Le 3 à 3 heures du matin, un dernier bataillon est largué sur Dien Bien Phu. Son chef, le capitaine Bazin de Beson, est immédiatement grièvement blessé. Le capitaine Pouget décrit ainsi la situation. Des dizaines de blessés occupent les abris. Les moins touchés servent des armes automatiques aux meurtrières. Parfois, un infirmier change un pansement qui s'en trouvait. Dans les tranchées, nos hommes regardent les parachutages tombés chez les Viettes. Tous les ouvrages défensifs gorgés de boue sont des ruines où logent des clochards terreux et faméliques.
Eh bien, cette nuit a été une nuit épouvantable parce que les combats n'ont pas cessé. Et après avoir été renseigné mes blessés, j'étais revenu au PC du GAP2 pour satisfaire à la demande du colonel Langlais qui m'avait dit « Vous êtes notre porte-bonheur, tant que vous serez là, la chance nous sourira ». Et là, ça a été poignant parce qu'on entendait les commandants d'unité disant « Les Viettes sont à 10 mètres, c'est fini pour nous, embrassez nos familles, je coupe ». Et c'était un moment très angoissant. Et après, la journée s'est déroulée avec... On a amené les blessés et il y en avait évidemment beaucoup. Et toute la journée, j'ai pu les soigner. Et puis, le colonel Langlais, quand j'étais reparti au petit matin, m'avait dit « Revenez vers 4 heures, Dien Bien Phu, les combats vont s'arrêter et nous vous donnerons les adresses de nos familles, nous vous donnerons des lettres pour que vous puissiez les rassurer. » Eux pensaient évidemment qu'en tant que femme, je serais libérée. Et là, il y a eu une journée donc pleine d'angoisse. Pour les blessés, quand même, un petit peu de soulagement, de penser que ces combats étaient terminés, qu'il n'y aurait pas de nouveaux morts et qu'eux pourraient peut-être retrouver leur famille. Mais 858 seulement ont été libérés par le Viet Minh.
Geneviève de Galard, l'ange de Dien Bien Phu, infirmière, convoyeuse de l'air, qui a fait tout le siège avec les soldats français. Le 4 et le 5 mai sont relativement calmes. Jap regroupe ses forces pour l'ultime assaut. Les pièces sont installées sur les points d'appui récemment tombés. On étudie au PC la possibilité d'une sortie pour 1 000 000 d'hommes. Le camp est réduit à un carré de moins d'un kilomètre de côté. Ça ne sera pas possible. Quelques éléments réussissent par petits groupes à gagner le Laos. D'autres, on ignore leur nombre, disparaissent à jamais dans la jungle. Les combats ultimes sont, d'après les survivants, d'un acharnement sans précédent. Même si, comme dira le commandant Botella, il n'y a pas de héros à l'état pur qui est brave chaque jour. Tel qui monte en chantant à l'assaut des mitrailleuses se terrera demain, suant de peur au fond d'un trou. C'est ainsi. Partout, maintenant, c'est l'agonie. Les adieux poignants à la radio.
Comme valide, envoyez renfort. À vous.
Il n'y a plus de renfort. Terminé.
Bien de reçu. Je détruis mon poste. Terminé pour vous.
C'est Liane 4. Les pièces sont là. C'est fini. Je détruis mon poste. Pour les paras, pour la Légion. Et.
Liane 3. Ils sont dans la tranchée. Je les vois. Ils viennent sur moi.
De Claudine 5, submergé. Tirailleurs, Légion. Monsieur les copains, adieu.
Dans la dernière nuit, on parachute encore 130 hommes. Pourquoi ? Ils ne changeront rien, bien sûr, et bien peu reviendront. J'aimerais, moi, connaître le nom de chacun de ces héros, tous volontaires le dernier jour, je le rappelle, tous volontaires. Au matin, seuls tiennent encore Eliane 3, Eliane 11, Eliane 12. Dans le PC, Castre a une ultime conversation avec son chef, Conny, alors que les Vietnamiens sont à moins d'un kilomètre. La voici, la qualité sonore n'est pas très bonne, mais le document a une valeur.
Général Conny. À 17h, Castre décide de faire cesser le combat dans le secteur central. Les hommes détruisent leurs armes, font sauter les stocks de munitions. Schoenderfer, par solidarité, détruit ses propres armes, sa caméra et ses véhicules. Il n'y aura donc aucune image de Dien Bien Phu. Celles qui existent sont des reconstitutions menées sous la direction du cinéaste russe Carmen, qui forcera les prisonniers à d'humiliants défilés. Un silence total s'abat sur le camp, le silence assourdissant de la défaite. Les premiers Baudoy prudents entrent dans le dispositif, puis l'investissent par milliers. Contrairement à ce que montre une gigantesque fresque circulaire dans le musée de Dien Bien Phu que j'ai visité, il n'y a eu aucun drapeau blanc. Mais c'est fini.
Thank you.
extraordinaire musique de Georges Delerue, mort l'année de la sortie du film Dien Bien Phu de Schoendorfer, qui eût bien mérité le César pour qui il ne fut que nominé. Est-ce fini? Non, pas tout à fait fini. Les Vietnamiens se consacrent alors sur Isabelle. Vous vous souvenez, ce point d'appui situé à 6 km au sud de la position centrale, dans la situation évidemment sans espoir. Ultime message reçu du PC, tentez votre chance comme vous le pouvez. Écoutons le lieutenant Préau. Sabotons les chars. À partir de 22h, sortie colonne par un par les chicanes sud. Nuit d'encre, zébrée par les obus de 105 qui nous pilonnent. Les incendies, les explosions que nous avons déclenchées. Au bout d'un kilomètre, barrage viette sur un cours d'eau qui ouvre le feu. Chacun gicle de son côté. 500 mètres au pas de course. Je me retrouve avec 15 légionnaires, plus aucun de mes hommes. Coup de feu espacé, patrouille viette partout. Toute la journée, nous marchons en nous guidant sur la Nam Yoon. Mais nous tournons en rond. Une heure, à un coude, tombe sur une escouade qui nous arrose au FM. Plongé dans la brousse, 5 minutes de fuite et viette sur nos talons. Me retrouve sur une petite colline. Prisonnier. Commence alors une autre tragédie que nous n'aborderons pas en détail, celle que vont vivre les prisonniers. Quelques chiffres suffisent dans leur apparente froideur. Pour rejoindre les camps d'internement, il fallut à ces hommes marcher 800 km. Combien périrent en route? Écoutez ces chiffres glaçants. Dien Bien Phu, 10 948 prisonniers. 4 mois plus tard, 3 290 seulement furent libérés. Il en manquait 7 700. Les trois quarts. Certes, ils ne furent pas torturés ou exécutés par les Vietnamiens, mais l'épuisement, la malnutrition, l'absence de soins pour les malades et les blessés firent des ravages. Subissant des séances interminables de propagande, sommés de renier leur chef ou leur pays, ce qu'ils endurèrent est terrible. Et les photos des libérés des camps rappellent celles des rescapés des camps nazis.
Est-ce le châtiment, Dieu sévère? Celui-ci va mourir. Et celui-ci? Celui-ci? Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Près des trois quarts de ces hommes vont mourir. Plus de 7700 de ces hommes ne reviendront jamais.
Au total, 16 000 hommes ont fait partie de la garnison. 7700 prisonniers ont disparu donc. 1800 tués au combat, 5540 blessés. Côté vietnamien, le bilan est estimé à environ 15 ou 20 000 tués, 20 ou 25 000 blessés. Que sont devenus les protagonistes de cette histoire? Le général Giap commandera les forces régulières du Nord-Vietnam qui vaincront l'armée américaine et mourra couvert d'honneur malgré quelques aléas et mourra en 2013 à 102 ans. Le général Navarre, remplacé par Salan au poste de commandant en chef, fut relativement épargné par la commission de 55 et fit valoir ses droits à la retraite l'année suivante. Conny conservera ses fonctions de commandant en chef du Tonkin jusqu'à la fin. Il trouvera ensuite la mort dans l'accident d'une caravelle entre la Corse et Nice en 68. Bijar, devenu un personnage médiatique, sera un personnage important de la guerre d'Algérie, à la fois pour les opérations menées avec succès dans le Djebel, mais aussi pour la bataille d'Alger menée par les paras contre le FLN infiltré. Les méthodes utilisées alors, la torture à grande échelle, jetèrent malgré le succès un discrédit sur les officiers dont Bijar, nommément accusé, ce qu'il réfutera toute sa vie. Secrétaire d'État sous Giscard d'Estaing, il fut pendant 10 ans député et finira sa vie paisiblement après un parcours stupéfiant. L'Anglais ne connut pas le même destin, sa carrière suivit un cours normal, qu'il termine en 68 comme général de division, mais dépressif, hanté par le souvenir, il se donna la mort en 88. Schoendorfer, volontaire, parachuté sur le Dien Bien Phu au cœur des combats, survécut bien sûr au camp, devint un cinéaste et un écrivain très important dont l'œuvre parle sans cesse de fidélité, d'amitié, de courage. Sa carrière commença avec Kessel en Afghanistan. En juillet, il avait tenté de s'évader des camps avec son ami Jean Perrault. Schoendorfer a été repris très vite, son camarade échappa au geôlier, mais pas à la jungle d'où jamais il n'émergea. Geneviève de Galard, libérée, évacuée sur Hanoï le 24 mai, elle deviendra un symbole. La presse l'encense en France, elle est même traitée de manière extraordinaire aux États-Unis. Parade à New York, réception avec Eisenhower. Elle travaillera longtemps aux Invalides, grande croix de la Légion d'honneur. Geneviève de Galard a vécu presque centenaire jusqu'en 2024. Le lieutenant Préau, dont les notes ont été si précieuses, a mené une carrière militaire très brillante qui l'amena au grade de général 4 étoiles et au commandement de la force d'action rapide juste avant la guerre du Golfe. Il s'est éteint en 2021. Enfin, un mot sur le maréchal des logis Ney, un des camarades de Préau. Alors je ne sais pas s'il est lié au maréchal, mais dans ses notes, Préau avait signalé, alors qu'il était prisonnier, j'ai croisé Ney qui me dit vouloir s'évader. Ney mettra son projet à exécution le 14 mai en compagnie du maréchal des logis Villers. Les deux hommes revivent des aventures dignes d'un film à grand spectacle. Repris, ils s'évadent à nouveau, ils traversent la jungle, ils dorment n'importe où, ils se perdent, ils traversent des hameaux hostiles ou fraternels, ils tournent en rond. Mais finalement, le 3 juin, ils parviennent, fiévreux, épuisés, en lieu sûr, au Laos. Quelques années plus tard, Ney épousera la sœur de son camarade d'évasion. À Dien Bien Phu, il n'y a qu'un petit monument sur un square tranquille en l'honneur des combattants français. Un voisin, Emma, me donna la clé de la grille, je pus m'y recueillir un instant. Il n'est pas l'œuvre de la France, ingrate comme souvent, mais d'un simple sous-officier légionnaire. Du photographe Jean Perrault, son ami Daniel Camus dira « Il aimait son métier, il était bon, fidèle, généreux, et il est mort comme beaucoup d'autres parce que des généraux se sont trompés, mais aussi parce qu'un peuple l'a abandonné, avec toute une armée, à la lâcheté des politiciens et à l'équivoque des causes à défendre. » Je crois que cette formule peut s'utiliser pour chacun de ceux qui sont tombés à Bien 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 Phu il y a 72 ans, loin de chez nous, là-haut, au-dessus des nuages, comme dit Schoenderfer. N'oublions pas tout à fait. Le 30 avril, c'est l'anniversaire d'une autre bataille étrangement similaire, plus vieille de près d'un siècle. C'était en 1863, à 55 km de Veracruz, au Mexique, que 65 légionnaires luttèrent une journée durant contre plus de 2000 Mexicains dans la Sierra de Cameroun. Beaucoup d'éléments rapprochent en effet ces deux batailles. D'abord, bien sûr, le principe du petit groupe assiégé par des forces infiniment supérieures. La situation géographique à des milliers de kilomètres de la France, une expédition lointaine au motif ambigu. Ici, la volonté de Napoléon III de soutenir Maximilien, l'empereur Habsbourg imposé au peuple mexicain. La présence, dans les deux cas, de la légion étrangère. L'issue inéluctable, la vaillance surhumaine, est finalement vaine. Pour mieux s'en convaincre, sachez d'ailleurs qu'à Dien Bien Phu, pendant les combats, un officier, prophétiquement, lut à la radio du camp le récit de la bataille de Cameroun. Avant de nous quitter, avant de réécouter une dernière fois, une deuxième fois un peu de la musique du film, je voulais vous raconter une anecdote personnelle que j'ai vécue là-bas, dans cet endroit de Dien Bien Phu. J'y étais, me promenant autour du site, essayant de retrouver, comme je vous l'ai dit, les stèles, les preuves, les endroits où les gens avaient combattu, essayant de rencontrer non pas les témoins, il n'y en avait plus, mais au moins des gens qui pouvaient m'en parler. Et en fin de compte, non. À l'exception du musée, ou une fresque assez particulière et assez partisane dépeint les combats, pas grand-chose. Mais dans ce musée, j'ai fait une rencontre assez étonnante. Un vieux monsieur, décoré, très âgé, marchait, entouré par deux aides. J'avais envie de savoir s'il était un combattant de la guerre contre les Américains ou contre les Français. Je me suis donc adressé à lui et à ses compagnons, qui m'ont confirmé qu'il avait combattu à Dien Bien Phu, l'armée française. Alors, j'ai eu une discussion assez étonnante avec lui, en lui demandant... Tout d'abord, qu'ils étaient ses souvenirs très précis. Il était un peu flou, mais il répétait sans cesse dans sa phrase un même mot qu'il me semblait reconnaître. Et j'ai cru reconnaître le mot qui désignait en vietnamien Isabelle. J'ai donc discuté plus longuement, j'ai interrompu les traducteurs et je leur ai dit « Mais est-ce qu'il est en train de parler d'Isabelle ?» Et en effet, ce vieil ancien combattant était en train de me dire « Je ne suis pas un des héros qui ont pris le PC. » Car ma mission à moi, à ce moment-là, était de combattre et de prendre d'assaut Isabelle. Et sur Isabelle, c'était très dangereux, car il y avait trois chars. Tout au long de cette émission, je vous ai parlé des notes du lieutenant Préaux qui m'ont beaucoup servi, et qui commandait le peloton de chars sur Isabelle. Eh bien, combien de chances statistiques y avait-il pour que je croise un jour l'homme dont je vous parle? Ce Vietnamien, ce soldat, qui me disait « C'est dangereux, les trois chars étaient là !» Et je voyais l'officier qui dépassait de la tourelle, qui faisait des signes. Je l'avais, ou presque, dans mon viseur. J'avais donc devant mes yeux, en 2023, un homme qui avait eu au bout de son fusil, 70 ans plus tôt, l'homme dont j'avais les notes avec moi pour ce voyage étonnant à Dien Bien Phu. Je ne sais pas si je vous l'ai suffisamment bien raconté, mais c'est un des moments émouvants et marquants de mon existence. Avant de se quitter, un peu de musique de Hans Zimmer. Voilà, cette musique de Hans Zimmer, c'est celle du film Gladiator, un film que vous connaissez sans doute de 2000, question de la résurrection de l'ancien général romain devenu une victime, puis un vainqueur. À Dien Bien Phu, en revanche, les soldats français n'ont pas vaincu. À Cameroun non plus, dont nous parlions. Alors, est-ce que parler de tout cela a encore un sens, au fond? Je m'interrogeais là vraiment, à l'instant même, en disant, est-ce que je ne suis pas complètement hors du temps? Qui cela intéresse encore aujourd'hui? Ben, finalement, je crois, moi, que la fraternité, le courage, l'esprit de sacrifice résistent absolument à l'épreuve du feu, à celle de l'ennemi jamais assoupi, le temps. Merci. À bientôt sur Radio Courtoisie.
Vous venez d'entendre Les Neiges du Kilimandjaro, dirigé par Marc Bessou. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 2 mai 2026 de 18h à 19h30 et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.